Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 84, je crois. Et il était encore 13h59 il y a quelques instants, mercredi 16 décembre 2015. Il était 13h59 et non, là maintenant il est bien 14h. Nous commençons un poil avant puisque le panorama hebdo n'a pas lieu aujourd'hui. Eh bien nous profitons de cette liberté accordée. Christophe Rollin au micro, Gérald est avec moi comme tous les mercredis. Et puis nous avons une invitée, Anne Meillon, directrice, co-directrice du Théâtre de la Croix-Rousse en compagnie de Jean Lacornerie. Elle est seule avec nous pour parler du spectacle qui est en cours, Mesdames de la Halle. Gérald l'a vu, il en parlera un peu. Il a également vu le Roi Carotte. Pourquoi évoquer le Roi Carotte qui est donné à l'Opéra Lyon? Parce que ces deux opéras sont opéras, je crois que c'est un peu lyonnais, opéras festifs de fin d'année, des opéras d'Offenbach qui sont donnés au Théâtre de la Croix-Rousse pour Mesdames de la Halle et à l'Opéra de Lyon pour le Roi Carotte. Gérald ayant vu les deux pour aller les comparer. Je crois avoir compris que se sortait bien de cette comparaison les Dames de la Halle qui sont données au Théâtre de la Croix-Rousse. Voilà, Anne Meillon est donc avec nous jusqu'à 15h pour parler de cet opéra. Et puis elle parlera également de la saison. Il y a une deuxième partie de saison à venir en janvier. Et puis elle parlera aussi d'autres choses encore. Voilà. Nous commençons jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon. Tout à fait raison. Ou bien vous nous écoutez également sur radiocanu.org. On va commencer avec de la musique. Zut, je n'ai pas encore préparé ça. Ça va arriver dans quelques instants. Un premier duo, Ciboulette avec Croûte-Pot. C'est extrait donc de cet opéra, Mesdames de la Halle. Courtoisie, merci à Anne Meillon et puis à l'Opéra de Lyon ainsi qu'aux chanteurs qui ont enregistré cela. incroyable. On entend des gens qui toussent. Moi, j'adore ça sur les CD. Vraiment, et c'est d'ailleurs quelque chose d'impressionnant. Tu tousses, Gérald. Le Rockarotte n'est pas enregistré, je crois bien. Donc, si vous souhaitez entendre ce que ça donne, eh bien, il faut se rendre à l'Opéra de Lyon. Et Mesdames de l'Anne n'est pas enregistré non plus. Si vous souhaitez l'entendre, eh bien, vous pouvez certes aller au Théâtre de la Croix-Rousse, mais vous pouvez également écouter Spectaculaire, hein, qui ce mercredi va traiter cet opéra et puis le reste de la saison de la Croix-Rousse. Nous avons un autre extrait à faire entendre tout à l'heure. Il y a également un compte-rendu à venir de Gérald. On commence tout d'abord. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Et nous avons une invitée. Bonjour Anne.
Et bonjour.
Alors je vous en prie, voilà, premier temps d'émission. Pourriez-vous, avant que nous parlions plus précisément de ce spectacle, Mesdames de l'Halle, un opéra d'Offenbach, donner, j'ai plus les dates sous les yeux, tu les as toi Gérald? Ça a déjà commencé la semaine dernière et c'est encore donné. Ça va être une première.
C'est un spectacle d'une heure et demie. Avec une dizaine, dix acteurs et chanteurs, 10 comédiens et une trentaine de musiciens de l'Opéra de Lyon, on va dire délocalisés dans le cadre de ce spectacle. Bon, sauf le piano, je crois. J'ai bien cru comprendre le spectacle. Il y a une petite allusion.
Il n'y a pas de piano.
Justement, il y a une petite allusion au Roi Carotte.
Il n'y a pas de piano.
Pas de piano. Qui est resté à l'opéra. Bref.
D'accord.
C'était une petite boutade pendant le spectacle. Donc il y a 30 très bons musiciens. Voilà. Et le spectacle se jouera à 20h jusqu'au 28 décembre.
Ah,
à des dates précises que je devrais avoir.
Bon, on les indiquera sur
bientôt,
le site.
C'est-à-dire le vendredi 11,
ça c'est fait,
11 au 28 décembre, donc c'est à 20h. Le dimanche 13 à 15h. Les dimanches en général c'est dans l'après-midi. Le mardi 15 à 20h. Le samedi 19 à 19h30. Le lundi 21 à 20h. Le mercredi 23 à 20h. Le samedi 26 à 19h30. Le dimanche 27 à 15h. Et le lundi 28 pour la dernière à 20h. Il y aura aussi une séance pour les scolaires le jeudi 17 à 14h30.
Ah mais c'est très bien,
que le théâtre est complet. Parce que c'est
complet.
Presque complet.
Aïe.
Sauf les trois dernières représentations où il reste encore quelques places.
D'accord, donc c'est la rançon du succès on va dire.
Oui mais il faut toujours tenter sa chance, même si on dit que c'est complet, voilà, si on a envie de voir,
ouais.
On vient. Et puis
il y a toujours des désistements de dernière minute,
des
listes d'attente.
Il faut essayer, voilà.
Et puis en plus, tu diras tout à l'heure, Gérald, en établissant peut-être une sorte de compte-rendu, que c'est un beau spectacle et qui est vraiment intéressant. Enfin,
c'est une opérette bouffe. Donc voilà, en ce moment, personnellement, j'ai eu la chance d'aller à l'opéra lundi voir le Roi Carotte, donc à l'opéra, bien placé, avec une grande production,
Là, il y en a pour 3h30.
250 comédiens sur scène, etc. Et hier soir, c'était une opérette bouffe, Mesdames de la Halle, qui est un texte très intéressant et aussi un très bon spectacle, même si on en parlera un peu peut-être tout à l'heure par comparaison, ce n'est pas du tout le même type de production, mais ça reste très intéressant et très joyeux.
Donc, Anne est avec nous, Anne Meillon. Alors, j'ai annoncé que vous étiez directrice, co-directrice. Est-ce bien le titre que vous avez au Théâtre de la Croix-Rousse?
Alors, le titre exact aujourd'hui, c'est directrice déléguée. Voilà, donc c'est une sorte effectivement de co-direction, un accompagnement du projet avec Jean Lacornerie depuis 2011. Voilà, puisqu'il a été nommé à ce moment-là et il avait envie de travailler sur ce projet, de travailler sur ce projet avec quelqu'un d'autre, à la fois pour la direction du théâtre et puis pour la programmation, puisqu'effectivement ce théâtre de la Croix-Rousse est un théâtre de création et de production avec les productions et créations de Jean comme metteur en scène, et puis un théâtre de diffusion et d'accueil, et il faut aller évidemment se balader dans toute la France et ailleurs et puis dans notre région et connaître les artistes pour pouvoir programmer, voilà, comme dans tous les théâtres de France et de Navarre.
Alors la France, vous la connaissez un peu, disons peut-être le Sud, puisque avant d'arriver au Théâtre de la Croix-Rousse, vous avez dit en 2011, vous êtes arrivé au début du projet de Jean Lacornerie. J'ai cru comprendre que, enfin du moins j'ai cru comprendre, c'est une expression que j'emploie parfois, en fait non, je me suis rendu tout à fait très nettement, très précisément sur le site. Il y a une sorte de petite page sur le site du Théâtre de la Croix-Rousse, je crois que c'est croix-rousse.com, c'est assez facile de retrouver le site, je le mettrai sur le blog. Et bien il y a une petite page qui vous est consacrée avec une courte biographie qui est établie et on se rend compte que vous avez voyagé un peu, enfin voyagé dans un territoire peut-être réduit, voilà, modestement, mais dans le sud, Valence, Grignan, quel nom ai-je vu encore, la Drôme de manière générale.
La Drôme, beaucoup, oui, essentiellement, on peut effectivement, avant de rejoindre Jean, j'ai travaillé pendant 10 ans au château de la Drôme, j'étais directrice de ces châteaux qui sont des châteaux départementaux, donc...
Combien y en a-t-il? Il y a celui de Grignan.
Trois, château de Grignan, château des Adhémars à Montélimar et château de Suze-la-Rousse, ce sont des propriétaires... propriété départementale, donc du département de la Drôme.
Ça n'appartient plus, ça n'est plus en rapport avec Madame de Sévigné, ça s'est terminé.
Ah, ça, non, depuis longtemps d'ailleurs, c'était le château de Grignan était le château de la fille. Enfin,
de sa fille.
C'est sa belle-fille. Sa fille était mariée, voilà, à François de Grignan, le comte. Effectivement, j'ai travaillé là 10 ans et j'étais 7 ans directrice d'un lieu avec une programmation artistique très pluridisciplinaire, c'est ça qui était assez intéressant, à la fois des concerts, des festivals de jazz, festivals de musique classique, mais aussi un gros projet de théâtre populaire, on peut dire, que vous devez connaître, qui s'appelle les Fêtes Nocturnes, au château de Grignan, et je peux dire qu'effectivement j'ai fait évoluer dans mon travail à Grignan ce projet qui était un projet de mise en valeur du château à travers des spectacles et des soirées déambulatoires vers un projet de théâtre populaire, c'est-à-dire montrer comment on peut faire du théâtre dans un lieu comme le château avec une façade 17e, mais en introduisant des metteurs en scène contemporains d'aujourd'hui, qui ont un regard d'aujourd'hui. Et je suis très fière de ce projet parce que c'est toujours être à la limite de ce qu'on peut faire dans ce type de lieu ouvert au plus grand nombre. On reçoit en 2 mois, ils reçoivent, maintenant je n'y suis plus, 30 000 spectateurs à peu près. Et ces 30 000 spectateurs assistent à un spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul spectacle proposé. Mais on attire les spectateurs par le fait qu'ils font confiance à la programmation, ils aiment se sentir bien dans ce lieu et découvrent par là même à la fois des grands textes classiques, mais aussi du coup un regard contemporain et d'aujourd'hui sur ces textes revisités. Voilà le travail que j'ai mené. C'est comme ça que j'ai connu Jean Vien. Comment j'ai connu Jean ? C'est que justement, je suivais beaucoup le travail de très nombreux metteurs en scène, dont celui de Jean Lacornerie, puisque voilà, j'ai suivi son travail depuis 2003, et j'avais très envie de l'inviter à Grignan. Ça a jamais pu se faire parce que le travail de Jean, spécifiquement, vous le voyez, c'est un travail de théâtre musical, donc faire intervenir des instrumentistes dans un projet en extérieur tous les été où il fait très chaud à Grignan, c'est plus complexe, enfin c'est assez complexe. Le lyrique fait qu'on peut pas toujours jouer tous les jours. Quand c'est pas du lyrique, c'est de la comédie musicale, ce que fait très bien Jean aussi. Mais là aussi, c'est quand même des équipes qui sont assez lourdes avec des instrumentistes, donc on n'a jamais pu le réaliser, ce projet, ensemble. Et c'est en arrivant au théâtre de la Croix-Rousse, il cherchait quelqu'un pour travailler avec lui. C'est moi qui suis venue à lui, voilà. On s'est retrouvés là-dessus et dans cette envie justement de continuer ce travail que lui-même avait développé au Théâtre de la Renaissance à Oullins avant d'être à la Croix-Rousse, d'une ouverture au plus grand nombre. Donc c'est aussi comme ça qu'on travaille au Théâtre de la Croix-Rousse, donc cette antériorité grignanaise, je crois qu'elle est tout à fait bénéfique, celle du Théâtre de la Renaissance aussi, pour Jean, puisque nous retrouvons là un projet qui essaye de montrer ce qui se fait aujourd'hui dans le théâtre contemporain, dans la musique aussi, dans les expressions de théâtre musical, des choses qui sont peut-être pas forcément très connues du grand public, du public qui va pas forcément tout le temps au théâtre, mais des choses que quand ils vont venir et s'asseoir dans notre théâtre, ils seront heureux de l'avoir vu, et voilà, ils comprendront que ces spectacles sont aussi s'adressent à tout le monde. La difficulté, évidemment, c'est de faire venir quand même le public à l'intérieur de notre salle, et c'est toujours un challenge de savoir comment on peut ouvrir, jusqu'à où on peut ouvrir sur des équipes qui sont moins connues, des aventures comme on discutait avant d'ouvrir l'émission, sur des nouvelles écritures, des collectifs, des jeunes collectifs, ou du théâtre musical. Quand on a commencé ça à la Croix-Rousse, c'était pas très connu dans ce lieu, mais voilà, aujourd'hui ça prend tout son sens. Je crois que le public nous fait confiance.
Nous avions reçu il y a quelques temps, l'année dernière je crois, un collectif qui avait mis toute la musique de Kurt Weill.
Ah oui,
voilà, le cabaret, excellent, les Canadiens.
Les Canadiens, oui. Le collectif.
Ce sont les Québécois.
Des Québécois.
L'orchestre d'homme-orchestre,
oui, tout à fait.
Ouais. Ils sont venus ici, le spectacle était fabuleux, c'est un des meilleurs que j'ai vu l'année dernière.
Oui, c'est le collectif Lodo, effectivement.
Comme quoi, voilà, Weill, Brecht est contemporain. Alors là, une question que j'ai envie de vous poser, ce serait en quoi Offenbach peut être aussi aujourd'hui contemporain.
Alors l'intérêt devez monter d'abord ce travail juste avant de répondre à votre question, vous dire qu'effectivement ce travail, ce Mesdames de la Halle est proposé, est une coproduction au Théâtre de la Croix-Rousse avec l'Opéra de Lyon. C'est-à-dire que nous ne pourrions pas, sur nos forces seules, monter ce spectacle avec les 30 musiciens de l'orchestre.
Surtout en ce moment.
Et voilà, donc on remercie beaucoup Serge Dorny pour sa fidélité au Théâtre de la Croix-Rousse, parce que son idée à Serge, et qui rejoint notre idée à nous et à Jean, c'est de aussi montrer des projets de théâtre musical, c'est-à-dire de petite forme, qu'il ne va pas pouvoir monter à l'opéra parce que le plateau est un plateau d'opéra, et comment montrer des formes de petites, pas trop petites, parce que c'est quand même, voilà, on dit 38 personnes sur scène, mais qui s'adressent plutôt à un public de théâtre, et c'est cette idée de faire venir dans cette salle des gens qui sont plutôt peut-être habitués à du théâtre et qui vont découvrir théâtre et musique. Donc ces projets avec l'Opéra de Lyon, on en fait tous les ans et souvent Serge Dorny propose à Jean Lacornerie donc de monter un projet avec lui. Quelquefois ce sont d'autres metteurs en scène que l'on invite. Sur Mesdames de la Halle, ce projet Jean était très heureux de le monter. En quoi c'est moderne? C'est moderne comme dans la façon dont on le re-questionne. D'abord c'est une opérette qui n'a pas été beaucoup montée. C'est une œuvre de jeunesse d'Offenbach, enfin une des œuvres de ses débuts. Et surtout, ce qui est intéressant, ce que Jean a proposé d'en faire, parce que c'est une œuvre très courte qui fait 50 minutes, c'est de recontextualiser ces halles de Paris.
Voilà. Il faut préciser aux auditeurs, voilà. Sont donc les halles de Baltard.
Oui, mais. Oui, alors,
grand centre avant Rungis aujourd'hui, qui est le centre d'acheminement de toutes les victuailles pour nourrir 10 millions de Parisiens. Avant, c'était les halles de Baltard qui ont été malheureusement détruites parce que ça faisait partie du patrimoine architectural du 19e, d'architecture de fer. C'était un lieu magnifique. Maintenant, aujourd'hui, c'est souterrain. C'est les halles Beaubourg, quoi, à côté.
Qui sont refaits éternellement, d'ailleurs.
Voilà.
C'est les halles.
Donc, c'était là que se tenait le cœur, on va dire, le ventre de Paris, au sens où Zola l'entend. Et d'ailleurs,
voilà.
Le spectacle commence avec ça, et c'est très bien.
C'est l'idée de comment on rend. En fait, comment on rend moderne, comment on rend quelque chose à un public d'aujourd'hui. Alors, vous parlez des pavillons Baltard. En fait, quand Offenbach a écrit Mesdames de la Halle, les pavillons Baltard étaient en construction. Donc, ça, c'était pas situé dans les pavillons Baltard. Lui ne l'avait pas situé là. Mais par contre, ces pavillons Baltard étaient en construction. Donc, c'est contemporain de l'écriture de l'œuvre. Et c'est pourquoi Jean a pensé que c'était intéressant de transposer finalement cette œuvre dans ces pavillons Baltard, parce que c'était aussi peut-être dans notre mémoire encore là quelque part, parce qu'effectivement on se rappelle, pour ceux qui sont parisiens, moi je le suis, donc je me souviens très bien de la destruction des pavillons Baltard à la fin des années 60. C'est vrai que c'était une époque dans les années 70 où c'était la voiture à tout prix, il fallait tout raser.
On a connu ça à Lyon aussi, on va pas citer les noms, mais il y a pas mal de ravages et de dégâts qui
voilà.
ont été faits aussi.
Oui, l'autoroute, des choses comme ça. Voilà.
On va pas parler de ça.
Donc, on va pas parler de ça. Mais l'idée, c'est de nous faire connaître ces pavillons Baltard. Et il s'est inspiré, effectivement, de différents écrivains, notamment Émile Zola, avec son roman Le ventre de Paris. En nous proposant un prologue, en fait. Voilà. Un prologue.
Un prologue d'ailleurs récitatif au sens théâtral. L'opérette a été adaptée dans un sens justement assez théâtral.
Assez théâtral, et le prologue nous explique comment fonctionnent les halles de Paris. Voilà, on nous plonge dans les halles de Paris, ce sont les halles des pavillons Baltard, avec deux comédiens chanteurs qui ne sont pas des chanteurs lyriques. Il s'agit de Anne Girouard, que certains connaissent, Anne Girouard qui est connue du public lyonnais notamment, et Thierry Gondet, qui sont des comédiens et qui sont tout aussi... fort
danseur,
en théâtre, qu'en danse, qu'en illusion, qu'en cabaret. Et voilà, à l'aide d'un texte inspiré de Zola et d'autres écrivains, et à l'aide de chansons assez rigolotes que Jean a expurgées de cette fin, plutôt du début du XXe siècle, en fait, des chansons cabaret du début du XXe siècle, où voilà, ils vont chanter le tourneau d'eau, les asperges. Les petits pois. On nous met dans le contexte, on nous plonge dans le contexte des Halles de Paris avant de commencer l'opérette.
à renfort de petites projections surprises, qui sont très bienvenues d'ailleurs pour une fois. Je trouve que la vidéo a vraiment sa place.
Des dessins faits par Étienne Guyol qui illustrent le propos de Anne et Thierry, qui tout au long après de l'opérette vont accompagner les chanteurs dans l'histoire de ces mesdames de la Halle. Voilà, donc ces dames de la Halle, une fois qu'on a planté le décor et qu'on était donc, on a compris qu'on était au Hall de Paris, comment ça fonctionne, on s'amuse beaucoup, on chante, eh bien c'est place à mesdames de la Halle et on assiste à un défilé, donc vous avez vu le défilé, de ces dames qui sont habillées.
Des
costumes qui nous font penser à des costumes de Folies Bergère, par exemple. Mais ce sont des dames, ce qu'on appelait les poissardes, des vendeuses de poissons, qui défilent en fait dans des costumes très humoristiques.
Voilà.
Alors, on est à la radio, donc on ne peut pas vous les montrer. Mais vous pouvez effectivement aller sur le site, vous y verrez des photos.
Oui, très bon costume.
Nous sommes, je crois, déjà en train de parler un peu de ce spectacle. Avant d'en parler peut-être davantage, beaucoup plus précisément, avec l'histoire. Hein, tu as raison, Gérald, assez souvent, quand on évoque des spectacles, revenir sur l'intrigue. Est-ce que nous pourrions peut-être, pour terminer un peu ce portrait que nous brossons de vous, Anne Meillon, est-ce que nous pourrions évoquer... J'avais deux, trois noms en tête. Est-ce qu'à Grignan, justement, est-ce qu'à cette époque... Je reviens un peu en arrière, là, on vient de beaucoup parler, de bien parler de... On a planté, donc vous avez dit, le décor de Mesdames de la Halle, l'opéra donné, l'opéra bouffe, l'opérette donnée ces jours-ci au théâtre de la Croix-Rousse. Revenons un peu donc à votre portrait, quelques instants seulement. Est-ce que c'est encore à Grignan que le TNP, parfois l'été, se délocalise pour des lectures ou pour des ébauches de textes qui
là vous faites allusion non pas au château de Grignan, mais à la commune de Grignan qui organise depuis bien une bonne dizaine, peut-être même maintenant une quinzaine d'années, le festival de la correspondance. Et probablement qu'effectivement le TNP a dû être invité à cette occasion, mais d'autres, enfin de multiples effectivement comédiens, lecteurs qui sont amenés à faire des spectacles autour de la correspondance, puisqu'effectivement tout ça en relation avec Madame de Sévigné.
Le château lui est-il associé à cette
Le château n'est pas associé à cette manifestation. Il l'a été, enfin ça dépend des années, il l'a été. Certaines années on a travaillé et reçu le festival, d'autres moins. Oui, toujours associé dans le sens où il y a beaucoup de visiteurs qui viennent et qui sont reçus dans ces journées-là faire des petites des écritures, des cabinets d'écriture, etc. Mais pas associé sur les spectacles, puisque le château de Grignan à ce moment-là lui, et dans sa configuration fête nocturne, et sur ce gros projet théâtral d'extérieur. Donc simplement, effectivement, le spectacle n'est pas joué pendant le festival de la correspondance, mais il fait une pause à ce moment-là. Voilà.
Et alors, une dernière chose, vous évoquiez tout à l'heure donc Jean Lacornerie, directeur du théâtre de la Croix-Rousse actuellement, auparavant du théâtre de la Renaissance. J'ai en tête le nom, je crois, du directeur de la Comédie à Valence, Richard Brunel. Est-ce que vous l'avez également côtoyé? Parce qu'il me semble, lui aussi, un peu comme Jean Lacornerie, être souvent en relation avec Serge Dorny pour différents spectacles qui peuvent aller à Valence, ou bien des mises en scène qui peuvent... Je crois que ce sera le cas cette année, il me semble que c'est peut-être l'Empereur d'Atlantis
a été monté, mis en scène par Richard Brunel, va être repris cette année au TNP.
Oui, voilà, pas chez vous, c'est ça.
Par contre, nous, effectivement, nous avions montré la création de l'Empereur d'Atlantis au Théâtre de la Croix-Rousse, je ne sais pas, en 2013, je crois, 13-14. Donc, effectivement, Richard Brunel, on travaille régulièrement avec la Comédie de Valence, soit avec les artistes associés qui sont et qui font partie de la Comédie de Valence, pardon. On le verra, puisque nous avons notamment Samuel Achache, Fugue, cette année, Caroline Guéla, aussi les Hommes Approximatifs, sont des équipes et des jeunes équipes qui sont produites par la Comédie de Valence. Donc, voilà, ça c'est un travail en lien avec la Comédie. Et Richard Brunel, on se connaît depuis longtemps, en tout cas pour ma part, puisque lui-même a commencé, je peux vous le dire d'ailleurs, sa carrière comme comédien aux fêtes nocturnes du château de Grignan. Donc la boucle est bouclée. Voilà, et à l'époque où je travaillais au château, il n'était pas encore directeur de la Comédie de Valence. Il a été nommé, je crois, autour des années 2009. Mais depuis, bien sûr, nous partageons, et comme toutes les équipes d'ailleurs, de la région Rhône-Alpes, on va dire bientôt Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de projets ensemble.
C'est prodigieux, épatant, ce sont toujours les termes que j'utilise. Je trouve que tous les éléments sont lancés, à la fois le spectacle Mesdames de la, dont on va parler dans quelques secondes, et puis aussi la deuxième partie d'émission avec les spectacles qui restent encore pour la deuxième partie de saison du Théâtre de la Croix-Rousse. Gérald, une intervention ?
Non, je vais proposer, pendant que tu cherches la deuxième plage musicale...
Elle est déjà prête.
Elle est déjà calée.
Elle est déjà prête.
Alors je lirai le texte
pourri
présentation
les...
de Jean Lacornerie après.
Ben, très bien. Donc nous écoutons un deuxième extrait musical qui nous vient toujours, je vous remercie beaucoup Anne Meillon, qui nous vient toujours de ce qui est joué ces jours-ci sur la scène de la Croix-Rousse. Donc à quelle partie, vous le savez, ça
se situe ? Le pot-pourri, c'est le pot-pourri du prologue, je crois.
Je suppose. Moi, je diffuse la musique que vous m'avez,
voilà.
Que vous m'avez remis.
Oui.
Bon. Donc c'est à quel moment de l'opéra ce
sera ? Passez-le, je vous dirai après.
Ah bon ben d'accord, on va le savoir. Vous êtes toujours sur Radio Canu, vous avez tout à fait raison. Écoutons de la musique qui est donnée ces jours-ci au Théâtre de la Croix-Rousse.
Ce qui frappe, ce sont les chicorées épanouies, montrant leur cœur blanc dans le vert tendre de leurs grosses feuilles, carottes rouges, navets blancs avec leur panache de feuilles vertes, tranches jaunes de potiron, tas de tomates, de pommes de terre, d'oignons blancs,
paquets de poireaux,
paquets d'oseilles et d'épinards,
montagnes de choux,
romaines empilées,
au panier de betteraves.
Les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Il y en a qui disent que les patates,
c'est très bon avec les tomates.
Les haricots, les choux farcis,
les choux-fleurs
et le paparoni. Pour ne pas faire démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Pour la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre, en tripatouillant partout le corps.
Vous êtes malade,
me dit le major,
que de votre cas d'exemption.
Dessous la toile, je lui réponds.
Ah les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.
On a fêté le brillant centenaire, Molière et Brillat, Savarin. Le Parmentier à la pomme de terre, Hugette, Momut et le bon vin. Puisqu'aujourd'hui, tous nos désirs convergent pour célébrer tant de bienfaits. Je veux chanter la gloire de l'asperge, fier produit du sol français. Asperge divine, pour nous tu n'as que des appâts. Si les roses ont des épines, asperge tu n'en as pas. Vraiment l'asperge est un produit céleste. Lorsque le bon Dieu vit qu'Adam, seul dans l'Éden, avait un air funeste, il eut ce réflexe épatant. Adam restait pensif devant la Vierge, c'est alors que le Créateur, avec génie, fit pousser l'asperge, et ce fut le premier. Asperge divine,
Eh bien, c'est presque comme si nous étions sur scène. Hein, Gérald ?
Oui, c'est comme hier.
Oui, il est 14h30 à la pendule de Radio Canu et pourtant, eh bien, on pourrait se croire sur les coups de quelle heure ? 20h30, c'est ça à peu près ? Ou même
oui,
si c'est la fin ?
Non, c'est pas du tout la fin, c'est le début. Il serait plutôt 20h20, 20h25 au Théâtre de la Croix-Rousse quand le spectacle se joue, puisque effectivement, c'est le pot-pourri chanté par... au départ, on entend la voix de Anne Girouard dans la réplique, et puis elle démarre aussi. Et après, c'est Thierry Gondet qui interprète ce pot-pourri, les petits pois,
voilà, etc. Donc, etc. Un méli-mélo de textes, de cabaret mélangés. Une salade mélangée,
c'est le cas de le dire. Voilà. Et il est très drôle, Thierry Gondet, parce que effectivement, c'est un chanteur aussi hein, de comédie musicale et un très bon comédien.
Plus du côté de la comédie musicale, ils ont leur micro, les deux là.
Et un très bon danseur aussi. Vous avez peut-être pu le constater hier soir. Et puis il nous prend avec beaucoup d'humour et beaucoup de second degré sur ce personnage de cabaret qui accompagne les chanteurs par la suite.
C'est très efficace.
Donc c'est Anne Meillon, directrice déléguée du Théâtre de la Croix-Rousse, qui est en train de, à l'instant, là, maintenant, qui nous parle de cette opéra, opérette, opéra bouffe. Il va falloir qu'on se mette d'accord
Moi, en antenne, j'étais en train d'essayer de faire la différence entre l'opéra et l'opérette. Donc je pensais, l'opérette, hein, le Pays du Sourire, Georges Guettari, tous les vinyles qu'on trouve à 30 centimes dans les vides-greniers.
Voilà, alors l'opérette en France, on a quand même, c'est un peu péjoratif hein, quand on dit opérette.
Oui, l'opéra du pauvre.
Et puis même, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les scènes, dans les théâtres, scènes labellisées, on va dire, si on fait de l'opérette, alors là, on nous dit, non mais ça va pas du tout, c'est pas pour le théâtre public, c'est pas vrai du tout. En fait, puisque l'opérette, il y a des très très bon au livret. Mmh. C'est plutôt Jean Lacornerie que vous devrez réinviter faire vraiment... voilà. Là, il va vous expliquer tout sur l'opérette et l'opéra, l'opéra comique, l'opéra bouffe. Voilà. Mais c'est vrai que pour accompagner son travail, on le constate, Offenbach, là, évidemment, beaucoup de monde le connaît, y compris dans le milieu classique. C'est un grand compositeur.
Génial, mais qui va
donc,
de l'opéra à l'opérette.
Effectivement, lui, voilà, quelquefois on voit opéra, quelquefois on voit opérette.
Préjugés sur les arts majeurs, les arts mineurs.
Voilà, moins de préjugés. Mais c'est vrai que dans l'opérette, il y a le meilleur, il y a le pire comme le meilleur, on va dire.
Alors bouffe, moi je pensais au mot bouffon, bouffonnerie, peut-être que ça vient de là, on en reparlera.
Mais tout de suite, puisque Anne Meillon est avec nous. Disons, pour aujourd'hui, Anne, vous nous parlez de cet opéra comique, le Mesdames de la Halle, qui est donné donc jusqu'au lundi 28 décembre, ce sera à 20h la dernière. Et vous êtes également ici pour nous parler de la deuxième partie de saison du Théâtre de la Croix-Rousse. Donc, quelques mots hein, quand même, un bon propos, Gérald, pour, je ne sais pas, un compte-rendu, l'intrigue, différentes choses, et puis encore quelques questions à Anne, et puis nous évoquons après la deuxième partie de saison, mais là, plus précisément, puisqu'il reste encore, je crois qu'il n'y a que 3 dates qui sont passées, il en reste encore 2, 4, 6 dates, auditeurs, et puis j'ai cru comprendre qu'il faut davantage compter
sur la fin de la programmation,
samedi 26,
jusqu'au 28.
Dimanche 27 et lundi 28 décembre, là, il restera
des Noël, avant Noël, sont assez complètes.
Oui,
sinon, c'est
voilà.
Un peu complet.
Et le spectacle se joue en alternance avec le Roi Carotte, parce que l'idée aussi de Serge Dornier et de l'Opéra de Lyon, c'était de proposer deux opéras d'Offenbach, pas connus. Enfin, Mesdames de la Halle, on l'avait déjà monté en 2012, donc c'est une reprise pour nous, avec une nouvelle distribution. Parce qu'il faut dire aussi, j'ai parlé d'Anne Girouard et Thierry Gondet, que les chanteurs sont les chanteurs du studio de l'Opéra de Lyon.
Et ça s'entend,
ils chantent très bien. Et ce sont des jeunes chanteurs qui travaillent sous la direction de Jean-Paul Fouché-Court, qui dirige ce studio. Voilà, et on voit par exemple Anne-Marie Suire qui interprète le rôle de Ciboulette, avec un beau tempérament et une très très belle voix, une très jolie voix. Ce que disait Jean aussi, qu'il faut l'entendre, et le chef, Nicolas Jenkins, c'est que c'est très difficile à chanter. Voilà, c'est peut-être de l'opérette, mais c'est très difficile à chanter. Voilà.
Oui. Et donc, des trilles. Hein.
Toi, Gérald, tu as pu faire le doublé. Lundi, c'était le Rocarotte, et hier, mardi, Mesdames de la Halle.
Avant de tenter une courte comparaison, c'est pas un vrai compte-rendu que je vais faire, j'ai encore la tête pleine de son très aigu, justement, de tri Offenbachienne, on pourrait dire. J'aimerais bien lire la lettre d'intention de Jean Lacornerie
allez-y.
À propos de Mesdames de la Halle. sa lettre d'intention un petit peu. Donc en 1842, Rambuteau, hein, qui a laissé beaucoup de noms de rues et de boulevards.
De métro aussi.
De métro, oui. Préfet de Paris, il crée la commission des Halles et la charge d'étudier leur réaménagement complet ou leur transfert. L'architecte Victor Baltard s'oriente à la demande express de Napoléon III vers une structure métallique s'inspirant de l'architecture des gares. Les travaux démarrent en 1854 à l'emplacement des Halles de l'Ancien Régime. En 1858, 4 à 6 pavillons sont déjà mis en service et Offenbach, qui a le génie de célébrer la vie parisienne, s'empare du sujet. J'en profite pour glisser que ceux qui veulent voir encore des pavillons Baltard, il en reste un à Nogent-sur-Marne.
Oui.
C'est le seul, je crois. Avec son opérette bouffe, je suis pratiquement certain qu'il faisait allusion à un événement que nous avons oublié aujourd'hui. Après le coup d'état du 2 décembre 1851, le prince-président Louis-Napoléon avait rétabli la fête du 15 août, jour de la Saint-Napoléon. Les dames de la Halle prirent son parti et organisèrent un grand bal sur le marché des Innocents. Elles firent construire d'imposantes cloisons en arcade, des galeries et des loges dans leurs étals avec un immense vélum qui couvrait l'ensemble. Placé sur la fontaine, l'aigle impérial achevait cette mise en scène grandiose, qui fut finalement gâchée par un orage. Pour moi, c'est ce rêve de grandeur qu'Offenbach orchestre dans Mesdames de la Halle. Il offre aux poissards un accès au grand opéra en leur écrivant des ensembles et des airs dignes du meilleur beer.
Meyerbeer, pardon. Ben non, mais
c'est, je crois, un hommage à ces personnages et à leur capacité à rêver. Il y a une poésie dans cette musique, une fraîcheur naïve sous la carapace des harengères. C'est ce rêve de théâtre que je voudrais mettre en scène. Imaginez que le monde des Halles s'est construit une salle éphémère faite de cagettes et de chariots pour jouer une grande revue où les dames présentent des numéros de musical à leur manière, dérisoire et grandiose.
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est
et
bien
alors,
résumé.
C'est la note d'intention de Jean Lacorderie. Évidemment, avant de faire cette création, c'est ce qu'il avait dans la tête et c'est ce qu'il a fait, puisqu'effectivement, on assiste là à un véritable défilé absolument sublime de ces poissarde. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est dans les rôles, ces poissardes sont jouées par des hommes. Ouais. Voilà, donc les madames, alors elles sont drôles aussi, donc il y a Madame Madou, Madame Poire Tapée et Madame Beurre Fondu sont toutes les trois jouées par des hommes.
Et Croûte au pot par une femme.
Et Croûte au pot qui est donc le jeune premier dont est amoureux Ciboulette, ouais, est joué par une jeune femme. Voilà, donc les rôles sont à se verser. Et par contre, il reste le major Raflafla,
oui,
qui lui est un. Bon, alors là, c'est un homme quand même, parce que Raflafla, c'est un vrai homme viril, oui, tout à fait.
Bah, il faut bien quand même qu'on se rende compte.
Il y a un beau mélange.
Il faut qu'on se rende compte par le concours de circonstances absolument. Je ne sais pas, éblouissant de la fin de l'opéra que je ne révélerai pas. Il faut quand même que ce rôle soit bien incarné par un homme, puisque il y a des retrouvailles assez époustouflantes.
Une satire de Vaudeville, peut-être une parodie de Vaudeville.
Oui, il y a une parodie de même d'ailleurs.
Des
à un moment donné, on se moque de Molière.
C'est
à
du Corneille.
Donné, donc il manque un petit peu tout.
De travaux forcés.
Oui, c'est des choses de pas très finalement. Oui, une petite une fille abandonnée qu'on retrouve pas. Voilà quelque chose.
Avec plusieurs mères.
Elle
a trois mères,
oui.
Bon, un seul père.
Ça dans beaucoup de romans de l'époque de pièces.
Et pour amener ce musical, donc non seulement il y a les costumes, mais avec ces costumes incroyables, avec des poireaux, des carottes, qui évoquent aussi les beaux costumes des Folies Bergère. Mais voilà, là.
Et plus certains lèvent la jambe très haut.
Hein. Non, oui, c'est ça. pour accompagner, évoquer ce musical, Jean a aussi travaillé avec Thierry Collet, qui est un magicien qui travaille avec Jean depuis longtemps sur ses projets. Et effectivement, les effets de magie sont apportés sur scène. Et
moi,
c'est impressionnant.
Je n'ai toujours pas compris comment couper les morceaux.
Voilà. Puisqu'elle a perdu.
Compris. Comment Ciboulette avait été coupée en morceaux.
Ciboulette est coupée en morceaux. Et aussi les deux pseudo-mères, Madame Beurre Fondu et Madame Portapé, qui pensent être les mères. Donc voilà.
C'est impressionnant parce qu'on ne sait pas comment ça marche.
On ne sait pas. On ne le saura jamais. Les magiciens ne dévoilent pas leurs secrets.
Il faut dire aux auditeurs que, amateur d'illusionnisme et de magie et de femmes coupées en morceaux, il faut y aller rien que pour ça.
Un spectacle total.
Et j'ai nommé tous les rôles, sauf la marchande de plaisir, qui est là jouée par une jeune femme aussi, qui effectivement fait que l'équipe doit être non pas de 10, mais de 7 chanteurs au final. Mmh. Ça paraît beaucoup, mais ils ne sont pas si nombreux que ça sur scène.
Non. Il faut dire que la mise en scène est faite de telle sorte qu'on voit très très bien l'orchestre, d'une trentaine de musiciens avec le
sur scène
Jenkins, qui sont sur scène et il y a des jeux aussi. Donc c'est pas d'un côté le décor avec les acteurs. Il y a beaucoup de perméabilité, on va dire, hein,
oui,
entre les scènes,
oui,
même des effets comiques, peut-être, d'interactivité,
oui, des beaucoup shows, d'interactivité, notamment entre Anne Girouard,
oui, oui,
et un certain bassoniste.
Voilà,
oui,
beaucoup de choses,
oui, oui,
entre un des musiciens, le bassoniste et une des actrices.
Oui, et pour finir sur l'aspect musical, c'est que toute la scénographie a été conçue avec des cajots, enfin avec
oui,
des palettes,
décor est assez impressionnant.
Des palettes et des cajots, et ces dames de la halle qui sont, comme je l'ai dit, en costume du Lido, on pourrait dire, ou de Folies Bergère, mm-hmm, mais à leur façon, elles descendent aussi des marches tout le temps, puisqu'en fait, elles sont
et
sur des cajots qui représentent, voilà, c'est
transpalette.
Voilà, c'était l'idée de transposer. Qu'est-ce qu'elles ont voulu faire? Elles ont voulu effectivement faire cette fameuse fête que décrit Jean dans sa note d'intention, et vraiment se faire plaisir et jouer là vraiment un vrai opéra.
Gérald, allez, deux mots sur l'intrigue et puis ensuite nous évoquerons, nous évoquerons une autre partie de saison.
On a tout dit là sur l'intrigue,
je crois. Pas grand-chose à dire.
Non, mais bon, peut-être sur les
prétextes, on va dire.
Sur les thèmes, voilà, exactement, sur le fait qu'on a évoqué
la suite,
une fille qui retrouve ses parents, un jeune premier qui trouve sa promise.
Voilà. Oui, je crois que là, voilà, l'intrigue, elle est prétexte,
oui,
effectivement, ouais, à tout ce qu'on vient de dire.
Exactement, c'est ça.
Rien qu'au nom des personnages, on commence à se divertir. Les marchandes de quatre saisons, Madame Madou, Madame Beurre Fondu, Madame Poire, le major Raflafla, qui cherche une épouse qui aurait des rentes, puisqu'il est.
Oui.
Dans la dèche.
Dans la dèche.
Et la belle Ciboulette. Enfant perdu, enfant trouvé, avec un quiproquo. Il y a une parodie du Jugement de Salomon aussi, à un moment. Voilà. Il y a beaucoup de parodies de tous les côtés. Qui rencontre l'amour avec le marmiton Croutopo. Donc tout va bien, tout finit bien. Bon, c'est prétexte à toutes sortes de. Alors peut-être qu'il y a une dimension satirique aussi politique. Que on a peut-être pas assez de.
Peut-être un peu plus caché, effectivement.
Et puis des allusions à certains faits culturels du livret de 1858 qui nous auraient échappé. Il y a des choses. J'ai échappé personnellement, des petites allusions.
C'est pour ça que le prologue est intéressant aussi.
C'est abordable à partir de l'âge de 10 ans. Hein.
Voilà, ah exactement. Oui, même avant. D'ailleurs, même certains spectateurs m'ont fait la réflexion,
oui,
en me disant que j'aurais pu venir avec ma fille ou mon fils de 7 ans. Oui, tout à fait.
Et donc tu disais.
C'est tout public.
À 21h30, je crois.
C'est vrai que la moyenne d'âge était assez élevée dans le public, j'ai remarqué.
Bah, ça dépend des soirs.
Le spectacle, vous avez dit 50 minutes de musique, mais comme il y a davantage, c'est quoi? C'est une heure et demie, c'est ça?
Un peu plus d'une heure et demie.
Donc à 21h30, Gérald, les gens sont contents? Le public applaudit? Oui.
Ils sont très très contents. Ils ont
beaucoup
demandé.
De rappels.
D'ailleurs, on a été gratifiés d'un bis.
Ça c'est bien.
Et puis les comédiens, les musiciens, tout le monde avait le sourire et tout le monde était très content. C'était un beau moment.
Qu'est-ce qu'on peut écouter maintenant pour introduire cette deuxième partie d'émission sur la saison 2016, purement, et non plus 2015, puisque ça s'achève dans le lundi 28 décembre avec la dernière Mesdames de la Halle. Oui,
Anne, alors moi je vous propose de repartir sur le jazz, donc un tout autre univers musical, puisque le premier spectacle que l'on va accueillir au Théâtre de la Croix-Rousse en janvier, c'est J'ai horreur du printemps, et c'est un spectacle jazz et cirque et bande dessinée, conduit par le quartet en jazz, en tout cas, de Stéphane Oliva. Donc on vous a préparé le petit teaser qui présente le spectacle, et l'extrait sonore est issu du teaser de la présentation du spectacle.
Bon, ça va être très court, mais nous écoutons, et ensuite nous reprenons sur cette deuxième partie de saison, l'année 2016 tout court, qui se terminera au mois de juin à peu près, ce sera ça.
Oui.
Nous allons le voir avec Anne Meillon.
Ça reprend tout de suite. Donc, un extrait. Merci encore, Anne Meillon. C'est vous qui assurez aujourd'hui la programmation musicale. Nous venons d'écouter à l'instant. C'était
Stéphane Oliva.
Oliva.
Claude Chamichian. Alors, Stéphane Oliva au piano. Claude Chamichian à la contrebasse. Ramon Lopez à la batterie. Et Christophe Moniaud au saxophone.
Un spectacle, je vois, cirque et jazz, donné du 12 au 15 janvier, le mardi 12 à 20h, jusqu'au vendredi 15 à 20h également, mercredi, jeudi, voilà, tous les soirs à 20h. Et c'est un spectacle dont...
Alors c'est un spectacle
qui fait recommencer en musique la saison du théâtre de la Croix-Rousse.
Voilà, en musique la saison du théâtre, mais vous savez que le théâtre de la Croix-Rousse est un lieu qui aime beaucoup mélanger le théâtre et la musique. Et cette fois-ci, on mélange non seulement on mélange plutôt le cirque, la musique, mais aussi la bande dessinée. Et ce spectacle, quand je l'ai découvert lors de sa création, en fait, c'est une maquette qui avait été proposée par Mélissa Van Vepi. Mélissa est une artiste circassienne voltigeuse, absolument magnifique, et elle a l'art de s'accrocher verticalement aux parois et à faire des équilibres incroyables et tout aussi étonnants. Elle a eu l'idée de travailler avec Stéphane Oliva, avec qui elle a déjà travaillé sur d'autres spectacles, sur un projet qui les faisait rentrer dans l'univers de Fred. Alors je ne sais pas si vous voyez qui est Fred.
Philémon.
Voilà, exactement.
Son grand œuvre.
Beaucoup connaissent Philémon. Vous connaissez Philémon. Peut-être moins connaissent, en tout cas, peut-être les jeunes connaissent moins, Le Petit Cirque. Donc, Fred est un auteur de bande dessinée qui a concouru notamment à créer Harakiri dans les années 60 avec toute l'équipe qu'on connaît, qui a malheureusement disparu l'année dernière, justement. Et lui, avec Cavana et Cabu, avait effectivement, professeur Choron, créé cette revue satirique. Lui-même, il a travaillé dans cet univers-là, et ce petit cirque est quelque chose qui nous fait aller dans un univers du cirque, comme son nom l'indique, mais un cirque complètement surréaliste, un petit peu comme Philémon, si on connaît Philémon, un univers tout blanc, avec un monsieur tout bourru, sa femme, ils conduisent tous les deux une roulotte, il y a un petit enfant, et ils rencontrent au gré à gré de leur chemin qui n'en finit pas, des choses et des personnages très étranges. Donc sont projetés sur un grand écran des vignettes de Fred, de ce petit cirque. Et Mélissa, cette artiste voltigeuse dont je vous ai parlé, va s'accrocher et va s'introduire et va même interpréter plus ou moins le rôle de Carmen, qui est la femme du circassien tout bourru qui conduit la roulotte. Et elle va l'interpréter verticalement, elle va rentrer verticalement, littéralement verticalement, dans cette vignette qui est représenté par l'écran.
Et j'imagine avec les cases ou des...
On ne voit pas les cases, dessinée. Mais on voit vraiment en projection, si
des
vous voulez,
les
espaces, et elle rentre véritablement dans l'espace, et on a vraiment l'impression de rentrer dans l'univers de Fred avec Mélissa. Et sur le plateau, les quatre musiciens que nous venons d'entendre, et je trouve que ce spectacle est vraiment très intéressant, parce que c'est souvent difficile de faire un spectacle théâtre, musique, cirque, dessin. Enfin, si vous voulez faire un spectacle pluridisciplinaire, quelquefois, on est plus attiré par l'une ou l'autre des disciplines artistiques. Et là, ça fait vraiment un tout.
Tout à égalité,
tout est à égalité. Les musiciens sont absolument formidables. Ce sont des très grands musiciens de jazz, très pointus. Et c'est un spectacle très féerique qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Et aux parents, on peut venir avec enfant, on peut venir sans enfant.
C'est très bien si tous, vous dites, font bon ménage, parce que je lis les trois dernières lignes de la présentation de la saison. Je lis, c'est très bien donc qu'ils fassent bon ménage, parce qu'il est question d'un manège triangulaire entre musique, cirque et bande dessinée. J'ai horreur du printemps, c'est donc le nom de ce spectacle, est une rêverie, un saut vertigineux dans l'univers de Fred. Ça me semble très bien. Est-ce que vous souhaitez, Anne Meillon, évoquer en tant que directrice déléguée encore d'autres spectacles à venir? Ça, c'est donc pour la première quinzaine de janvier. Quoi pouvons-nous...
Je pense que nous
sur
pourrions...
Sur quoi pouvons-nous attirer notre attention?
J'avais pensé vous parler plutôt des spectacles musicaux, puisqu'on était parti de Mesdames de Lalle et qu'on a aussi des spectacles purement du théâtre. Voilà. Mais donc, je voulais vous parler de Fugue, et ça tombe bien parce que vous pensiez que c'était intéressant aussi d'en parler, notre petite conversation avant l'émission. Fugue est un spectacle de Samuel Achache et d'une compagnie qui s'appelle La Vie Brève. La Vie Brève, pardon. c'est justement un collectif. Alors on disait effectivement en introduction que une des choses qu'on aimait bien faire à la Croix-Rousse, c'était ouvrir vers des univers que le public connaissait pas forcément, des écritures nouvelles. Et là, il s'agit d'écriture de plateau. Alors c'est un terme qui est beaucoup employé aujourd'hui par les nouvelles équipes, par les jeunes équipes, par les jeunes qui sortent des écoles ou pas d'ailleurs, et qui collectivement vont travailler sur une matière théâtrale dont ils inventent eux-mêmes et le fond et la forme. C'est-à-dire souvent le texte, quelquefois ils parlent d'un texte, mais souvent ils en inventent le texte à partir de contextualisation, d'improvisation. C'est un travail assez long. Et Samuel et son équipe La Vie Brève sont partis d'une idée complètement folle, on va dire. C'était de partir de la question du tempérament en musique baroque. Alors quand il est venu nous expliquer ça, je vais vous dire, à l'équipe, alors que le spectacle n'était pas créé, on a tous ouvert des yeux vraiment très gros, parce qu'on s'est dit, oh là là, on va rien comprendre. Et puis il se trouve que ce spectacle a été présenté lors du festival d'Avignon cet été, dans le IN. J'ai oublié de vous dire que Samuel Achache avec Jeanne Candel avait présenté un spectacle qui avait été très remarqué, qui s'appelait Le Crocodile Trompeur, d'après Didon Henné de Purcell. Donc ce spectacle a eu aussi des grands prix de la critique, à Molière aussi d'ailleurs, et avec cette même équipe, là Samuel repart, mais sur un texte à inventer. Au final, qu'est-ce qui se passe dans cette aventure? Comme on parle beaucoup de réchauffement climatique, ce spectacle se passe en réalité dans le pôle sud, dans un univers avec des scientifiques, et quelque chose de complètement hurlu-berlu, d'une équipe qui serait à la recherche de l'harmonie, en train de sonder les sous-sols de l'Antarctique.
Des carottes géantes de l'Antarctique.
Voilà, pour chercher un lac au fond de l'Antarctique, dans cet univers complètement blanc et glacé. Et en fait, ce sont sept clowns, on peut dire vraiment, de jeunes comédiens, musiciens qui savent tout faire, c'est-à-dire jouer la comédie, chanter. Et là, la musique qu'on va entendre, et on peut en écouter un extrait, puisque je l'ai apporté, c'est essentiellement l'univers de la musique baroque. Donc on va écouter une musique plutôt sérieuse, mais en fait, ne vous y fiez pas, ils sont complètement foutraques. Oh,
et puis baroque,
terme.
C'est pas si sérieux que ça. Hein.
Oui.
On est bien placé pour le savoir, spectaculaire. On a fait beaucoup d'émissions sur le baroque.
Oh là là, un très court blanc, j'ai été surpris, 1 minute 33, c'est très bref. Anne Meillon, voilà, un extrait de ce spectacle.
Oui, en fait,
à venir.
Ça, c'est aussi ce qu'on peut appeler un teaser. Donc, on entend des répliques, effectivement, comme ça, sorties du contexte. C'est certainement très, très bizarre pour les auditeurs. Mais ça donne l'ambiance. Et Libération, titrée dans sa critique lors du Festival d'Avignon, dans sa réalisation solo, le metteur en scène allie théâtre musical et potagerie hypothérapeutique. thermique. C'est toujours voilà les petites choses cinglantes de Libération, mais c'est tout à fait ça. Et ces artistes, ce qui est intéressant, c'est que cette écriture au plateau, on ne sait pas où ça va les mener, et ça finit par quelque chose d'incroyable, tout à fait personnel, d'original, de très humoristique, et en même temps, ça parle de la vie. Mmh.
Du mardi 2 février jusqu'au samedi 6, 20h en semaine, 19h30 le samedi. Et puis, on pourrait en parler parfois, il y a également, enfin on pourrait en parler tout court, il y a parfois même, je crois régulièrement, des bords de scène proposés, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer les artistes. Est-ce qu'on peut rencontrer par exemple l'acrobate,
Mélissa,
la circassienne dont vous aviez parlé?
Oui, tout à fait, oui, Mélissa.
Mercredi 13
venir.
Janvier, je crois.
Voilà, exactement, c'est
et
indiqué.
Et là, pour Fugue, c'est le mercredi 3 février.
Voilà, fiez-vous au programme, fiez-vous aussi.
Il faut attendre un peu, c'est après le spectacle, c'est ça?
Ah oui, il faut attendre le spectacle. Alors voilà, vous assistez au spectacle, c'est... et puis vous restez dans la salle, vous êtes conviés à y rester puis à rencontrer l'équipe artistique. Donc c'est vrai qu'avec des gens comme l'équipe de La Vie Brève, de Samuel Achache, mais aussi avec Mélissa d'ailleurs et les musiciens de jazz, c'est toujours intéressant de rester pour avoir un petit peu plus de savoir et de connaître comment ils ont fabriqué ces spectacles. Juste après Fugue, justement, nous recevons Caroline Guéla.
5 minutes encore pour évoquer différents spectacles.
Non, juste, le
temps file
dire...
à chaque fois. Parlez.
Chagrin,
ça, a l'air bien,
ça
le chagrin.
Aussi, c'est un spectacle. Alors, on va dire, voilà, c'est sur le deuil.
Sur un sujet tabou.
Un sujet dont il ne faut
mais
pas
l'actualité.
Parler.
Nous l'avons coché.
Ce spectacle est magnifique.
On
si
devrait
vous avez,
peut-être recevoir le mercredi 10 février, peut-être Caroline elle-même, Caroline Guéla,
ou bien
quelqu'un des hommes approximatifs. C'est coché.
Voilà, elle vous expliquera, Caroline, comment elle travaille. Son idée à elle, c'est vraiment de faire comment on peut rendre sur le plateau le réel. Voilà, c'est son postulat. De sa compagnie, comment sur le plateau on rend
vérité,
le réel.
Du cinéma vérité, alors.
C'est un peu ça, mais sauf que du coup on est impliqué dans le spectateur est impliqué et voilà, il y a une empathie qui se crée entre les comédiens sur le plateau. Là on assiste à une famille, voilà, le père a disparu, ça va être le deuil et finalement comme dans toutes ces familles lors d'un deuil, le rire aussi, le souvenir mmh. d'enfance apparaît et on vit complètement ça avec
une
l'équipe.
Une pièce utile alors.
Une pièce tout à fait
remettre de
plus qu'utile,
deuil,
oui.
Peut-être.
Oui.
Attention, pièce, ce n'est pas vraiment un texte tout à fait écrit, hein, c'est ça. Enfin, du moins, il y a d'une part, c'est proposé par un collectif qui en plus a un nom, les hommes approximatifs, donc peut-être une...
Ah, mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de texte, ça ne s'appuie pas sur un texte écrit.
Voilà, c'est ça.
Mais l'écriture de plateau, ça ne veut pas dire après...
Non, qu'il n'y a rien.
Non, c'est pas ça, qu'il n'y a pas de texte. Au contraire, c'est qu'ils apportent ce texte ensemble, ils l'inventent ensemble, et après, ils le donnent sur scène. Bon, ouais. Après, on a aussi d'autres équipes, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et comme
je
n'ai pas beaucoup de temps, je me dis qu'il faut qu'on finisse en musique.
Oui, c'est le blues des canuts qui arrive.
Voilà, alors vous avez le choix entre Puccini, je vais vous laisser choisir.
Les héroïnes de Puccini
revisitées. Ou alors, vous avez le choix entre nos musiciens syriens, Baba Salam.
Alors Baba Salam, on invitera un des musiciens, le guitariste électrique, Philippe, si tu m'entends, Philippe, tu es déjà programmé pour le mois de février pour venir parler de ce spectacle.
La musique est très belle. Oui, c'est très bien, vous avez invité
Philippe. Bon, on va l'inviter.
On en parle, non? De quoi? Enfin,
on va parler des oreilles de Puccini pour finir avec
qu'est-ce qu'on
opéra,
écoute.
Parce que j'aimerais
deux... Moi, je vous propose d'écouter Tanto Amore, donc le dernier extrait qui sont les trois héroïnes de Puccini chantées par Simone Moazen. Ce sont les héroïnes de Turandot, de l'opéra Turandot, Tosca et Turandot. Enfin, donc, c'est Turandot. Tosca et qui chante des grands airs d'opéra et là ici par une jeune femme qui s'appelle une comédienne chanteuse Simone Moazen qui sur scène nous fait toute une elle nous explique elle se demande en fait pourquoi les romantiques aimaient tant ces femmes qui mouraient sur scène, qui étaient si malheureuses, qui tombaient amoureuses de personnes qui étaient d'hommes qui étaient ingrats parce que finalement toutes ces héroïnes à la fin soit elles sont tuées, soit elles se suicident, il y a des couteaux, etc. Donc elle prend un discours assez féministe, comme une conférence si vous voulez, comme une conférence qui commence et puis finalement on s'aperçoit qu'à un moment donné elle va se mettre à chanter et c'est absolument magnifique et nous aussi on tombe dans le panneau de ces grands romantiques.
Mais qu'est-ce que c'était court, 20 secondes. Bon.
Mais il n'y a pas les trois, oui.
Non, mais c'est. J'en ai mis qu'un seul. Gérald, allez, écoute.
Bon, on est revenu à l'opéra de Puccini, on va revenir à Offenbach, puisque c'était quand même le thème majeur de cette émission 85.
84.
4.
84, je crois.
Donc, dans le très bel opuscule Le Roi Carotte, que publie à chaque fois le livret de l'Opéra de Lyon, pour Le Roi Carotte, dont je parlerai un petit peu peut-être sur le blog, ce sera bien, on n'a plus le temps.
Très bien, tu as raison.
Je tenterai une petite comparaison.
Pascal est déjà là pour le blues des canuts. Allez,
donc, vite, quand même, on lui vole une minute. Des textes de Nietzsche à propos d'Offenbach. Donc, avec un esprit voltairien. Si l'on entend par le génie d'un artiste la plus extrême liberté à l'intérieur d'une loi, la divine légèreté, la désinvolture dans les pires difficultés, Offenbach a plus de droits que Wagner au titre de génie. Friedrich Nietzsche, extrait de La Volonté de Puissance. Offenbach, deux points, autre extrait. Musique française avec un esprit voltairien, libre, insolente, avec un petit ricanement sardonique, mais clair, spirituel jusqu'à la banalité. Il ne maquille pas. Et sans la volupté blond-viennois mignarde maladive. Troisième et dernière citation, extrait de Fragments posthumes de Nietzsche. Les Juifs ont frôlé le génie dans l'art avec Heinrich Heine et avec Offenbach, ce satyre des plus spirituels exubérants, qui comme musicien tient à la grande tradition et qui pour celui qui a des oreilles représente une vraie libération par rapport à la sensiblerie des musiciens au fond dégénéré du romantisme allemand. Offenbach, ce satyre des plus spirituels exubérants. Bon voilà.
Bon. Nous en reparlerons.
Vocabulaire, mais c'est intéressant de replacer.
Très bien. Nous en reparlerons sur le blog. Allez, oh là là, mon Dieu, il est plus de 15h. Zut, on a commencé avant et on termine un peu après l'horaire. Ce n'est pas grave. Spectaculaire, c'est comme ça. Émission mercredi prochain, pas sûr, hein, Gérald. On fait peut-être relâche.
Il y aura sans doute relâche, mais il y a le Roi Carotte aussi à aller voir à l'opéra. Ce sont approximativement les mêmes dates, puisque c'est une sorte de.
Diptyque
hein, qui fonctionne au Théâtre de la Croix-Rousse et à l'Opéra. Le Roi Carotte, beaucoup plus de comédiens.
C'est différent.
Alors oui, l'intérêt, j'ai voulu de dire au Théâtre de la Croix-Rousse, c'est qu'on voit les musiciens. Voilà. Ça, c'est très important.
Et tu l'as bien indiqué, tu en parleras sur le blog. Donc rendez-vous auditeurs sur le blog, à défaut de nous entendre mercredi prochain le 23, puis le mercredi encore suivant. On se retrouve, je crois, normalement le 6 janvier pour évoquer Suspense. Vous verrez d'ici là. Ah si, c'est peut-être Denis Lavant pour parler de Elisabeth II. Possible. On verra. Anne Meillon, merci beaucoup.
Merci à vous. Beaucoup.
On vous souhaite une bonne deuxième partie de saison. Et puis Pascal, on te laisse la place pour le Blues des Canuts. Auditeurs, restez à l'écoute. Bonne fête de fin d'année. Puis rendez-vous l'année prochaine. Salut tout le monde.